VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Abdelrahman Diaw en direct de Washington pour cette édition de 19h30, temps universel. Nous sommes lundi 12 février 2018 au sommaire. Le sort de Jacob Zuma au centre d'une réunion d'urgence de l'ANC aujourd'hui à Pretoria. Procès en masse de membres présumés de Boko Haram dans une base militaire du centre du Nigeria. Le gouvernement éthiopien poursuit ses gestes de bonne volonté envers l'opposition. Les charges contre l'opposant Bekele Garba ont été abandonnées. Tournée du chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson au Proche-Orient. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. L'armée camerounaise a déclaré qu'elle poursuivait ses recherches dans la région anglophone du Nord-Ouest pour retrouver un sous-préfet local disparu la veille. Des sécessionnistes affirment avoir enlevé l'officiel. Sa voiture a été retrouvée brûlée dimanche matin à Batibo avant le défilé de la fête de la jeunesse qu'il devait présider et qui de fait ne s'est pas tenu. L'opposition congolaise appelle à une mobilisation massive pour la marche des catholiques prévue le 25 février à Kinshasa contre le maintien au pouvoir de Kabila en République démocratique du Congo. Dans un communiqué, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a également indiqué que son congrès prévu les 26 et 27 février était reporté pour soutenir la marche programmée le 25 février par le comité laïque de coordination. Au Nigeria, des centaines de membres présumés du groupe Boko Haram comparaissent devant un tribunal installé dans une base militaire. Ce procès, qui se tient dans le centre du pays, vise à déterminer s'ils seront condamnés, innocentés ou envoyés dans des centres de réhabilitation. Le point avec Salwa Diafari.
Très peu de détails sur ce procès, aucune information sur la durée des audiences. On sait toutefois que des centaines d'anciens membres présumés de Boko Haram seront à la barre et que le ministère de la Justice a assuré que certaines ONG et certains médias pourraient avoir accès à la salle cette fois-ci. Lors de la première audience en octobre, 1669 personnes étaient présentes à Kanji, une ville reculée de l'État du Niger, dans le centre du pays. Le ministère nigérian de la Justice avait annoncé la libération de 468 suspects. 45 ont été condamnés à des peines allant de 2 à 15 ans de prison et 28 ont été envoyés dans d'autres juridictions. 82 personnes avaient plaidé coupables en échange d'un assouplissement de peine. Certaines ont été relâchées après des années en détention. L'armée nigérienne a souvent été accusée d'arrestations arbitraires de civils détenus pendant des années sans procès ni accès à un avocat. L'insurrection de Boko Haram qui dure depuis 2009 et sa répression ont fait au moins 20 000 morts et quelques 2,6 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria.
Le premier ministre malien Soumaïlou Boubé Maïga a promis tous les moyens nécessaires pour la sécurisation du centre du pays. Il a aussi assuré que le premier tour de l'élection présidentielle au Mali se tiendrait le 29 juillet. 5 personnes sont en procès en Centrafrique dans l'affaire des munitions et de la drogue découverte fin janvier dans un camion affrété par une entreprise privée sous contrat avec les Nations Unies dans le centre du pays. Ces 5 personnes, 2 chauffeurs, 2 assistants et un passager, sont accusés de détention de munitions de chasse sans permis, de détention de chanvre indien et de détention de stupéfiants, a indiqué le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bambari. Le jugement a été mis en délibéré et devrait être prononcé mercredi. Quel avenir pour le président sud-africain Jacob Zuma? L'ANC, le parti au pouvoir, s'est réuni à Pretoria pour décider de son sort. L'opposition, quant à elle, appelle à la dissolution du Parlement et des élections législatives anticipées pour sortir le pays de cette crise. Reste à Girondin.
Les membres de la plus haute instance de décision de l'ANC, le Conseil national exécutif, se sont retrouvés pour finaliser la question du départ anticipé du président Jacob Zuma. Cette instance a le pouvoir de le rappeler comme elle l'avait fait en 2008 pour le président Thabo Mbeki. Cyril Ramaphosa, le nouveau dirigeant de l'ANC, et Jacob Zuma ont engagé la semaine dernière des négociations qui n'ont abouti à aucun résultat. Selon les médias locaux, le président tenterait d'obtenir l'immunité l'humanité pour de nombreuses affaires de corruption, il est toujours soutenu par un carré de fidèles. L'opposition, l'Alliance démocratique, qui a déposé une motion de défiance inscrite à l'ordre du jour du 22 février, a demandé la dissolution du Parlement et des élections législatives anticipées pour sortir de cette crise. Pour Kenneth Méchaud, le chef du Parti démocratique chrétien africain, il est important que le Parlement soit dissous pour rompre avec le cycle de corruption et tenir des législatives anticipées, le second mandat de Jacob Zuma expire en 2019 et les prochaines élections législatives sont prévues normalement l'an prochain.
Le porte-parole des rebelles du Soudan du Sud, James Katek Dak, a été condamné à mort pour trahison un an après avoir été expulsé du Kenya où il avait obtenu le statut de réfugié. Cet ancien journaliste qui a proclamé son innocence a également été condamné à 21 ans de prison, une peine qu'il devrait purger avant son exécution. L'Éthiopie a abandonné les charges contre l'opposant Bekele Gerba. Le vice-président du Congrès fédéraliste Oromo bénéficie de l'amnistie annoncée le 3 janvier par le premier ministre Hailemariam Desalegn à l'égard de certains hommes politiques. Le point avec Arzuma Compaoré.
La justice éthiopienne a abandonné les charges à l'encontre de sept suspects dont Bekele Gerba. Le pouvoir d'Addis Abeba a décidé d'amnistier des hommes politiques pour construire un consensus national et agrandir l'espace politique selon la télévision d'État. M. Bekele avait été arrêté en décembre 2015 à l'occasion de la répression des plus importantes manifestations antigouvernementales en Éthiopie depuis 25 ans. Ces manifestations, lancées par les Oromo, avaient été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Il y a eu au moins 940 morts, selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme. M. Bekele est devenu un symbole de la cause des Oromo, le plus grand groupe ethnique du pays. Depuis l'annonce de l'amnistie, le président de l'OFC, Merera Gudina, emprisonné depuis 2016, a été libéré. Le gouvernement a annoncé la prochaine libération du blogueur Eskinder Nega et de l'opposant Andoualem Arage, arrêté en 2012.
En Égypte, 28 djihadistes ont été tués, 126 autres arrêtés dans le nord et le centre de la péninsule du Sinaï depuis le lancement vendredi d'une vaste opération antiterroriste. C'est ce qu'a annoncé l'armée ce lundi. Baptisée Sinaï 2018, cette campagne militaire lancée à un mois et demi de l'élection présidentielle mobilise notamment l'aviation et la marine dans cette région où la branche locale du groupe État islamique mène régulièrement des attaques meurtrières.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a débuté une tournée au Moyen-Orient par une rencontre au Caire avec son homologue égyptien Sameh Shoukry, avant un entretien avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Le point avec Lionel Gaïma.
Un dîner, puis une tête-à-tête à huis clos avec son homologue avant de donner une brève conférence de presse.
Nous avons convenu que nous poursuivrions notre coopération étroite sur les mesures antiterroristes, y compris notre engagement commun dans la défense de l'État islamique.
État islamique, mais aussi pour reprendre les mots du ministre des Affaires étrangères égyptien.
Nous avons discuté une fois de plus de l'importance de trouver une solution au conflit israélo-palestinien sur base d'une solution à deux États et de l'importance de la poursuite des efforts américains pour parvenir à une résolution finale.
Après le Caire, M. Tillerson doit se rendre au Koweït pour participer à une réunion ministérielle de la coalition internationale menée par Washington contre le groupe djihadiste État islamique en Irak et en Syrie.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou discute depuis quelque temps avec l'administration américaine du projet d'annexer les colonies de Cisjordanie occupées. C'est ce qu'a déclaré un de ses porte-parole ce lundi. Les propos publiquement attribués à Netanyahou constituent la première expression de soutien de sa part à un projet défendu par de nombreux membres de son parti et de sa majorité parlementaire. Ouverture au Koweït d'une conférence sur la reconstruction de l'Irak, trois agences de l'ONU ont insisté sur l'urgence de l'aide à la population irakienne après la guerre contre le groupe État islamique. À la conférence de Koweït, l'Irak cherche à récolter environ 88 milliards de dollars pour sa reconstruction après trois ans de guerre contre le groupe État islamique. En Arabie Saoudite, le parquet à Riyad veut recruter pour la première fois des Saoudiennes alors que le royaume cherche à favoriser l'emploi des femmes en application d'un plan de réforme économique et sociale. Cette annonce s'inscrit dans le cadre du programme de réforme Vision 2030 du prince héritier Mohamed Ben Salman, qui veut que les femmes constituent près du tiers de la population active contre 22% actuellement. La directrice générale adjointe de l'ONG Oxfam a démissionné, exprimant sa tristesse et sa honte à propos de la conduite d'employés de l'ONG au Tchad et en Haïti. Penny Lawrence a annoncé sa démission dans un communiqué assurant assumer l'entière responsabilité. Oxfam est dans la tourmente en raison d'un scandale sexuel impliquant des responsables de l'organisation en Haïti et au Tchad, incluant le recours à des prostituées dans les locaux de l'organisation. L'annonce de la démission de Penny Lawrence intervient après l'annonce du gouvernement britannique qu'il allait réexaminer sa collaboration avec Oxfam. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est la Minute Éco présentée par Raissa Girondin.
Le Maroc a connu un nombre record de touristes en 2017 avec 11,35 millions de visiteurs, soit 10% de plus que l'année précédente, dépassant pour la première fois la barre des 11 millions. La croissance de ce secteur clé de l'économie marocaine intervient après plusieurs années de quasi-stagnation. Le tourisme marocain a notamment bénéficié en 2017 d'un renforcement des liaisons aériennes avec de nouvelles lignes vers l'Europe lancées par des compagnies low cost et plusieurs vols intérieurs opérés par la compagnie nationale Royal Air Maroc. Le Gabon a annoncé en fin de semaine dernière un plan de remboursement de 77% de sa dette intérieure. Cette dette de 405,3 milliards de francs CFA, selon le FMI, représentait 4,6% du PIB gabonais fin 2017. Le Gabon a par ailleurs une dette extérieure du même montant. Un premier décaissement de la moitié du remboursement promis devait être fait d'ici fin février sous la forme d'un financement bancaire, tandis que le remboursement de l'autre moitié devrait se faire sous la forme d'un rachat par les institutions bancaires ou financières locales dans un délai d'un mois. L'ex-présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf s'est vue décerner lundi le prix Mo Ibrahim 2017 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. Fondée par Mo Ibrahim, riche entrepreneur anglo-soudanais des télécommunications, le prix récompense un ancien chef d'État ou de gouvernement d'un pays d'Afrique subsaharienne qui a quitté ses fonctions au cours des trois dernières années pour son travail dans l'intérêt du public ou son action en faveur du développement durable.
Et nous retrouvons Eric Manelakiza pour la page des sports. En football, demain et mercredi, la Ligue des Champions reprend en Europe pour les huitièmes de finale.
Disons que c'est le vrai tournoi qui commence, Abdou. De choc au sommet, Juventus Tottenham demain, Real Madrid, Paris Saint-Germain mercredi à 20h45. Neymar est attendu au tournant contre son ex-rival du championnat d'Espagne. Les Madrilènes ont pratiquement tout raflé ces dernières années en Ligue des Champions, avec 3 titres sur les 4 dernières éditions. En face, le PSG domine logiquement le championnat de France, mais n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale.
Juventus Tottenham, la vieille dame face à un ambitieux.
Le club italien est une vieille habituée de la compétition. Abdou, le vétéran Gianluigi Buffon sera dans les cages et rêve toujours de la Champions League, l'un des rares titres qui manque à son palmarès. Les Turinois vont donc affronter une équipe de Tottenham ambitieuse menée par l'attaquant anglais Harry Kane. Principale difficulté pour Tottenham, Abdou, son manque d'expérience sur la grande scène européenne.
Des sommes faramineuses dans les transferts, Manchester City et le PSG battent les records.
Aucun club dans l'histoire du football n'a dépensé autant d'argent en indemnités de transfert pour réunir son effectif que Manchester City. Les Citizens ont déboursé 878 millions d'euros au total, davantage que le PSG qui a versé 805 millions d'euros sur le marché. Deux autres équipes ont dépensé plus de 700 millions pour composer leur effectif actuel. Il s'agit de Manchester United et Barcelone.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Cleveland et LeBron James ont écrasé Boston 121-99 dans le choc de la conférence Est. New York a connu sa sixième défaite d'affilée contre Indiana 121-113. Dans la conférence Ouest, Houston a glané une huitième victoire de suite contre Dallas 104-97. Oklahoma City s'est défait de Memphis 110-92. En dépit de l'absence de ses stars Russell Westbrook et Carmelo Anthony, Oklahoma accueille Cleveland mardi lors de la prochaine journée. Et c'est tout pour les sports, Abdou.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, se réunit d'urgence à Pretoria pour finaliser, selon son chef Cyril Ramaphosa, la délicate question du départ anticipé du président de la République, Jacob Zuma. Pour analyse sur le sort de Jacob Zuma, Idriss Fall à Johannesburg, Marc Bafour de l'African Diaspora Forum.
Aujourd'hui, c'est un débat houleux. En ce moment où je vous parle, le parti au pouvoir, donc l'ANC, est en conclave pour décider du sort de Jacob Zuma. Il y a à peu près 2 heures du temps, l'opposition a tenu une conférence de presse pour lancer un ultimatum à la présidente de l'Assemblée nationale que demain jusqu'à 10 heures, si elle ne décide pas sur la motion contre le président Zuma, ils vont approcher la justice. Et donc l'opposition demande qu'on dissout l'Assemblée nationale et qu'on reprenne les élections, qu'on fasse des élections anticipées. Mais en ce moment, tel que je le disais, l'ANC aussi est en conclave. Les quelques nouvelles que nous avons des médias qui sont sur place nous disent que Jacob Zuma a décidé de démissionner, mais il faut décider de qui est-ce qui pourrait assumer la transition. Et donc, c'est sur ce débat qu'ils sont en ce moment.
Et apparemment, M. Zuma chercherait aussi à avoir des garanties pour son éventuelle impunité.
Justement, au fait, apparemment, ça fait partie de la discussion qu'ils ont en tant que parti politique. Mais seulement, ça paraît un peu difficile parce que avec Zuma, on dit qu'il y a à peu près 783 chefs d'accusation contre lui. Zuma a voulu faire comme son ami, le président zimbabwéen, l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe. Mais le cas Mugabe ici, ce que les gens disent, c'est que c'est un peu différent parce que Mugabe n'a pas été poursuivi par la justice. Alors que dans le cas Zuma, il est en ce moment poursuivi. Il a 783 chefs d'accusation. Donc c'est un peu difficile. Mais ça peut être une décision politique. On attend de voir ce qui est sûr aujourd'hui. L'ANC doit finir la réunion et automatiquement, après leur réunion, cette nuit-là, même l'ANC doit se prononcer de tout ce qui devra suivre. Parce que l'ANC ne voudra pas des élections anticipées, l'ANC ne voudra pas dissoudre l'Assemblée nationale et donc des élections anticipées. Ça, ce serait plus compliqué pour eux.
C'était Marc Bafou, le président de l'African Diaspora Forum.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, inquiétude face à l'insécurité croissante à Bukavu, la capitale du sud Kivu, suite aux attaques de bandits armés et aux extorsions de biens et d'argent que subit presque quotidiennement la population. C'est la psychose dans la ville, particulièrement dans les milieux de changeurs de monnaie, victimes de braquages en plein jour. Reportage de notre correspondant sur place, Ernest Mouero.
La dernière attaque en date remonte à la nuit du 8 février dans les quartiers Ponzi en commune d'Ibanda. Des hommes armés non identifiés ont attaqué 24 maisons et dépouillé certaines familles, transformant ces quartiers en un champ de tirs nourris à 3 heures du matin au moment de l'intervention de la police. La même nuit, une autre attaque au quartier Nkafu en commune, cette fois de Kadutu, a entraîné la mort d'un enseignant. Selon l'organisation locale Sagesek Force Vive, pour le seul mois de janvier 2018, il y a eu 20 personnes tuées et 36 maisons attaquées dans les trois communes de Bukavu. président Ilunga du Parti congolais pour le progrès garde un souvenir amer de l'attaque survenue dans sa famille le 3 février vers 1h du matin au quartier Nyakaliba.
Ils ont escaladé le mur de ma clôture et pendant qu'ils forçaient les portes comme ça, j'ai tenté d'appeler presque tous les services en charge de la sécurité, sans succès. Pendant ces 30 minutes, j'ai résisté. J'ai un bébé de 2 semaines. Ils ont jeté le bébé. Un de mes enfants était tombé évanoui.
De temps à autre, des corps sans vie sont découverts ça et là dans la ville. D'autres victimes de cette insécurité sont surtout les cambistes. Le 25 janvier à 16h30, une attaque spectaculaire à la grenade en plein centre-ville a fait 2 morts et 17 blessés en face de la société Kotecha. Parmi les blessés figurent le président des cambistes et de cet axe, père de 9 enfants, qui a perdu ses 2 jambes et 3 doigts. Le coordonnateur provincial de l'association des cambistes de Bukavu, Justin Musikano, interpelle.
Nous demandons aux autorités de nous garantir la sécurité. Depuis 2018, il y a 4 attaques. Et dans ces 4 attaques, il y a 3 morts, il y a 17 blessés et beaucoup de pertes de biens matériels, surtout de l'argent. Ce sont des gens qui viennent avec des armes et ils tirent des balles réelles sur les gens.
Christian Wanduma, membre du cabinet politique du gouverneur du Sud Kivu et coordonnateur de Bukavu Force Vive, une organisation spécialisée dans les questions sécuritaires.
Ceux qui ont braqué au niveau de Kotecha, il y a 4 qui ont été arrêtés. Ceux qui ont braqué Shkibonge, il y a déjà une dame et un type récupérés. Ça, ce sont les signes qui prouvent que les services s'y mettent pour remettre de l'ordre aux mains, pour que les services puissent réussir. Ce soutien, cette collaboration de la population en est d'une grande contribution parce que la sécurité, c'est une affaire de nous tous.
Bien que la police ait déjà interpellé 10 des suspects en lien avec l'insécurité dans la ville, la psychose monte de plus en plus, personne ne se sent vraiment à l'abri. Le regard sont donc tournés vers la police et le nouveau gouverneur du Sud Kivu, Claude Nyamugabo, qui avait promis dans son discours programme le maintien de la sécurité parmi les axes prioritaires de son action gouvernementale. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Togo, fin hier à Lomé de la 2e édition du salon dit du mariage et des noces. Pendant 3 jours, des expositions, des articles de mariage, des conférences débats sur la séduction, entre autres, ont marqué l'événement. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
De l'acte 2 du salon du mariage et des noces s'avance sur le tapis rouge. Dans sa robe blanche, la mariée, au bras de son homme en costume gris, ce couple de circonstances donne envie à tout célibataire de dire oui. Ce salon n'est pas destiné aux futurs mariés, souligne Sandrine Atama, directrice du salon du mariage et des noces.
Pour une personne qui n'est pas encore mariée, on ne lui dit pas de venir sur le salon et se marier directement. Non. Elle peut peut-être déjà venir voir. Elle peut s'inspirer et trouver elle-même des idées pour son mariage, même si ce n'est pas maintenant, c'est peut-être dans 5-10 ans. Maintenant, pour quelqu'un qui est déjà marié, l'intérêt de venir, on se dit généralement qu'une fois marié, tout est acquis, on n'a plus rien à apprendre. Mais c'est faux. Il y a justement ces professionnels-là qui sont venus nous dire non, ça ne s'arrête pas là. Il y a une vie après le mariage. Il faut justement pimenter cette vie de couple.
Du 9 au 11 février à Lomé, le salon du mariage et des noces a permis de rassembler des professionnels de la chaîne de l'un des événements les plus importants de la vie d'un individu, le mariage. Au total, 3 conférences-débats ont meublé cette 2e édition de ce salon. L'une de ces conférences a eu pour thème « Comment réussir un beau et heureux mariage ». À l'issue de cette conférence, Alexandre de Souza, marié de son état, a retenu quelques astuces pour vivre dans le bonheur avec son âme sœur.
Le bonheur, c'est une recherche, c'est un objectif, c'est quelque chose à atteindre. Il faut toujours vouloir, il faut toujours s'améliorer. Et donc, c'est d'essayer toujours de vivre dans cet amour-là, toujours se rappeler les premiers jours, faire des choses ensemble. Et donc, quand on prépare bien son mariage et qu'on vit son mariage dans l'amour, on ne peut qu'être heureux.
Au Togo, 3 types de mariages sont courants. Il s'agit du mariage religieux, du mariage civil et du mariage coutumier communément désigné la dot. Contrairement à une croyance populaire, la dot ne conditionne pas le mariage à l'état civil, nous dit Valentin Adjawinou, président de la délégation spéciale du 1er arrondissement de la ville de Lomé.
La dot est considérée comme un honneur que l'homme fait à la famille de sa partenaire. Donc la dot, c'est symbolique. Et c'est pourquoi le législateur l'a fixé à 10 000 francs CFA. Le fait de ne pas donner la dot ne constitue pas un frein au processus de mariage. D'ailleurs, les deux qui contentent le mariage étant des majeurs, même si les parents refusent la dot ou acceptent la dot, nous recevons le mariage.
En un an, le taux de mariage célébré dans la commune de Lomé a connu une hausse de 25%. De 2200 en 2016, le nombre de mariages célébrés est passé à 2750 en 2017. Ce chiffre n'était que de 1049 en 2011, toujours dans la commune de Lomé. Kailesson, depuis la capitale togolaise, pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Joselle Morissin, présentation Abdourahman Diar. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente écoute.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis condamnent l'arrestation d'au moins 29 manifestantes iraniennes pour avoir exercé leurs droits et libertés fondamentales en protestant contre le port obligatoire du hijab. La porte-parole du département d'État, Heather Nauert, dans une déclaration écrite, a souligné que les États-Unis demeurent fermes dans leur soutien à la liberté de religion, d'expression et de rassemblement pacifique. Le président Donald Trump a dit, de son côté, que le peuple iranien est la source des plus grandes craintes du gouvernement iranien. Cette peur s'est encore affichée dans la réaction du régime vis-à-vis des femmes protestant contre le port obligatoire du hijab. Les images et vidéos des femmes iraniennes sans voile, agitant leur hijab, se sont propagées à travers les médias sociaux. Certains hommes et des femmes voilées ont également protesté contre l'imposition du hijab. Ils ont été motivés et inspirés par l'action d'une jeune iranienne qui était debout sur une caisse en bordure de la rue de la Révolution à Téhéran avant le début des manifestations massives contre le gouvernement à la fin de décembre. La lutte contre l'imposition du hijab n'a rien à voir avec la question de savoir si le hijab est bon ou mauvais. C'est une question de choix, d'égalité, a écrit sur les médias sociaux Omid Bemarian, une journaliste basée aux États-Unis qui a été une fois emprisonnée en Iran. Ainsi que l'a relevé le rapport 2016 du département d'État sur les droits humains, la marche des femmes iraniennes est limitée dans tous les domaines de la société. Non seulement elles doivent obligatoirement porter le hijab, mais leur témoignage en justice vaut la moitié de celui d'un homme. Elles ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants ou leurs époux étrangers. Des restrictions sociales et légales limitent leurs opportunités éducatives et professionnelles et elles sont punies de manière disproportionnée pour certains crimes. Les femmes en Iran méritent mieux. Elles méritent de se voir accorder leurs droits fondamentaux, ainsi que soulignent les manifestations contre le port obligatoire du hijab. Ainsi que l'a dit la porte-parole du département d'État à Nawaz, les gens doivent être libres de porter les vêtements de leur choix et pratiquer la religion qu'ils désirent. Priver les individus de ce choix sape leur autonomie et leur dignité.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.